Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. La campagne se poursuit encore aujourd'hui. À une semaine du deuxième tour, Marine Le Pen est à Marseille. Une visite surprise. Elle a déposé une gerbe de fleurs pour la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Elle devait ensuite se rendre à l'usine Alteo de Gardanne, mais les portes étaient fermées. Elle a fait demi-tour. La candidate qui tiendra demain son premier meeting aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Emmanuel Macron, lui, doit se rendre à Paris au mémorial de la Shoah et il tiendra également un grand meeting demain, porte de la Villette. L'élection n'est pas encore jouée, c'est ce que dit ce matin dans le journal du dimanche Robert Badinter. L'ancien ministre, connu pour son combat pour l'abolition de la peine de mort, a dit ne pas se sentir aussi optimiste que ses amis politiques à propos d'une victoire d'Emmanuel Macron. Les derniers sondages le donnent toujours gagnant, mais l'écart se resserre. La politique, c'est aussi à l'étranger. Ça fait 100 jours que Donald Trump est président des États-Unis. 100 jours palpitants et productifs, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré hier lors d'un grand discours donné en Pennsylvanie. Traditionnellement, les présidents se rendent au dîner de l'association des correspondants de la Maison-Blanche, mais il a préféré décliner l'invitation. Il a critiqué des médias qui répandent des fausses infos et qui sont ligués contre lui. Retour chez nous avec cette vague d'intempéries qui va faire son apparition cet après-midi. Météo France a placé 22 départements en alerte orange pour orage. Ça concerne tout le sud-ouest de la France, des Pyrénées aux Charentes, en allant jusqu'à l'Hérault, l'Aveyron et la Creuse. Le sport, le football avec cette 35e journée de Ligue 1. À noter pour les résultats d'hier, Monaco qui a battu Toulouse 3-1. Victoire également du dernier du classement, Bastia 1-0 face à Rennes. Même score pour Nantes contre Lorient. Saint-Etienne a battu Guingamp 2-0. 3-0 pour Lille contre Montpellier et Metz a gagné 2-1 contre Nancy. Et puis ça continue cet après-midi, 3 matchs à suivre, Caen Marseille à 15h, Dijon-Bordeaux à 17h et Nice-PSG pour 21h. Puis cet après-midi, il y a aussi du rugby, suite et fin de la 25e journée de Top 14 avec à 12h30 La Rochelle-Montpellier et à 17h le Stade français contre le Racing. Excellente journée à tous.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
O novo supermercado Le Saveur do Portugal já abriu na grande zona comercial de Acher. Para que o prazer da descoberta seja ainda maior, Le Saveur do Portugal propõe promoções excepcionais até dia 30 de abril. Queijo limiano a 8,90€ o quilo. Chouriço de amarante a 6,90€ o quilo. Café Delta Q número 10 a 2,50€ a caixa de 10 cápsulas. E a consumir com moderação, vinho tinto Capataz 5 litros a 7,50€, ou seja, 1,50€ o litro. Venha descobrir Le Saveur do Portugal em Acher. Le Saveur do Portugal. A nossa maior satisfação é vê-lo a sorrir.
Les Niçois, assurés de finir sur le podium, vont-ils rejoindre les Parisiens et les priver de la deuxième place? Les Parisiens peuvent-ils rattraper l'AS Monaco et continuer à viser le titre? Et si le podium et le championnat se jouaient lors de cette OGC Nice PSG?
Pour connaître les réponses, rendez-vous ce soir à 21h pour le match OGC Nice PSG en direct et en exclusivité sur Canal+. Et c'est à retrouver dans les offres Canal à partir de 19,90€ par mois. Appelez vite le 3910, 25 centimes la minute plus prix de l'appel, offre soumise à condition.
Últimos dias especiais no But et là qui en brille.
Exclusif, ça bouge chez But. En ce moment, liquidation avec des affaires dans tous les rayons. Des milliers d'articles sacrifiés à prix liquidation. Un conseil, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
But, la queue en brie, RN4, la Croix-Saint-Nicolas. Liquidation partielle avant travaux du 24 mars au 30 avril. Récépissé 2017-01 du 11 janvier 2017. Produit et réduction sur inventaire magasin.
Passagem de nível. Artur Silva.
Bonjour à tous et à toutes. C'est dimanche 30 avril, passage à niveau. Et bien entendu, on est entre le premier et deuxième tour des élections présidentielles. Entre-temps, il faut pas oublier d'autres dates, le 11 et 18 juin, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer le 7 mai, justement, avec nous. Et pour nous parler de ces élections, celle maintenant de la présidentielle, mais également des élections législatives, Catherine Dos Santos, candidate PCF, Front de Gauche, journaliste et l'humanité. Catherine Dos Santos, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors, un peu plus tard, on va parler de l'édition 2017 et des chantiers d'Europe qui démarre le 2 mai à Paris, Espace Cardin, avec une exposition sur la révolution des œillets, ni plus ni moins. Édition des chantiers d'Europe qui va se prolonger jusqu'au 24 mai dans ce théâtre, une musique inclus, musique du Portugal. D'ailleurs, le 20 mai, il y aura Sérgio Godinho qui va chanter ici à Paris un concert. Sérgio Godinho qui a été exilé en France avant le 25 avril. Les choses finalement se rejoignent. Un peu plus tard, on va parler théâtre au sujet de la pièce Flore Bella, La Sœur du Rêve, qui va être représentée au Théâtre de l'Orme à Paris le 6, le 20 et le 21 mai. Pièce théâtre de Odette Pink édition. Orfeo, et un peu plus tard, on parlera de le quatrième volume des compositeurs portugais, répertoire pour pianistes, qui sera présenté le 16 mai dans un concert à la Fondation Gulbenkian ici à Paris. On aura Bruno Bertoise, compositeur, également pianiste, qui a lancé tout ce programme. Alors, Catherine Dos Santos, vous êtes candidate PCF Front de Gauche. Alors, l'ancien député, c'était quelqu'un du PS qui se représente pas, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est Jean-Yves Le Bouillonnec qui au départ prétendait briguer un quatrième mandat et qui a annoncé très récemment, fin mars, début avril, qu'il n'irait pas à cette élection, peut-être une élection de trop.
Alors, mais vous, c'est la première fois que vous êtes candidate
Tout à fait, je n'ai jamais occupé de fonction élective. C'est la première fois que les communistes donc de la circonscription qui m'ont désignée pour porter leur couleur... Donc je me présente donc pour la première fois, soutenue par cette force militante qui est très importante sur la circonscription, une circonscription très très marquée à gauche.
Voilà, tout à fait, la 11e du Val-de-Marne, Arcueil, Cachan, Gentilly, Villejuif. Alors aujourd'hui, on est le 30 avril. On avait connu le 21 avril, quelques années en arrière, et on a vécu justement le 23 avril. Résultat. Deuxième tour, Madame Macron, Marine Le Pen. Sont où les partis républicains?
Il y en a, ils existent. En tout cas, moi, je suis membre du Parti communiste français et je suis très contente et très fière que dès le 23 avril au soir, c'est-à-dire dès que l'on a connu les résultats, le secrétaire national du Parti communiste français a appelé sans aucune ambiguïté à faire barrage au Front National. Il y aura deux bulletins de vote le 7 mai, celui d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen, donc d'utiliser le seul bulletin à même de faire barrage à l'extrême droite dans ce pays.
Alors effectivement, Pierre Laurent a lancé l'appel le soir du 23. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, on va y revenir notamment, ça concerne M. Jean-Luc Mélenchon. Alors ça n'empêche que les partis de gauche et de droite sont hors course. Je passe l'expression, c'est un séisme politique en France.
C'est un séisme politique qui est à l'image de ce que nous disons, en tout cas certains depuis quelques temps. Nous vivons une crise multidimensionnelle, une crise bien évidemment économique et financière dont la facture a beaucoup été adressée essentiellement et principalement au peuple, et pas qu'au peuple français, mais également au peuple portugais, au peuple espagnol. Et puis nous vivons aussi ce qu'on appelle une crise de régime, où cette 5e République est arrivée à bout de course, où nos institutions ont besoin d'être revues de fond en comble pour repenser la démocratie. Et finalement, le fait que les deux grands partis qui ont structuré la vie politique de cette 5e République, quel que soit le nom qu'ils aient pu porter par le passé, soient balayés de ce premier tour, est révélateur de ça. Deux partis qui, certes, se sont alternés au pouvoir, mais sans jamais travailler à une alternative politique qu'attendent les Françaises et les Français, notamment en matière de politique sociale et économique.
Alors, 5 ans de présidence de François Hollande, la gauche au pouvoir, ça n'a pas arrangé les choses, bien au contraire, parce que les gens ont perdu confiance. Maintenant, quand on parle de gauche, qu'est-ce que ça veut dire gauche? Certains disent qu'il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite.
Il n'y a plus de différence. Bien sûr qu'il y a des différences. Le problème, c'est que vous faites référence au Parti socialiste et j'insisterai plus sur ce gouvernement de Valls et Hollande. Effectivement, ils se sont fourvoyés. Ils ont poursuivi la même politique que Nicolas Sarkozy et on comprend la frustration et la colère des gens. Quand on se présente comme le président qui ne sera pas celui de la finance et que toute sa politique est tournée pour conforter les multinationales et les marchés financiers, on peut comprendre la frustration, elle est juste, elle est légitime. Mais ce parti socialiste-là qui a gouverné pendant 5 ans et la manière dont il a gouverné, il n'est pas révélateur de ce qu'est la gauche. La preuve, je dirais, par le score de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qui est la rencontre de plusieurs partis de gauche, du Parti communiste français, mais également d'ensemble, pour une gauche de transformation sociale, de progrès, de transition écologique, avec des propositions qui font le pari de l'emploi, de meilleurs salaires, plutôt que celui de la finance.
Alors, il y a des millions de personnes qui ont manifesté en France, dans pas mal de villes, contre la loi El Khomri. Bien entendu, c'est un texte qui est passé de force à l'Assemblée nationale. Finalement, on n'a pas tenu compte de la voix de ces millions de personnes qui ont manifesté. Mais par contre, on a tenu compte de ce qui s'est passé avec le sens commun, autre qu'à des pour soutenir M. Fillon. Donc il y a des gens qui manifestent, qui comptent plus que d'autres.
C'est très révélateur de ce que je disais tout au début de l'émission, c'est-à-dire qu'on est arrivé, moi me semble-t-il, au bout d'un cycle. Quand je disais que ces institutions doivent être balayées, revues de fond en comble pour tenir compte de la voix populaire des hommes et des femmes qui manifestent pour défendre leurs droits et pour en gagner de nouveaux, c'est ça, quand on légifère à coup de 49-3, on est à un moment donné complètement en décalage avec les aspirations. Et c'est ça aussi qu'il faut changer. Et c'est pour ça que lorsque nous disons il faut faire barrage à l'extrême droite, mais ce n'est en aucun cas un blanc-seing ou un chèque en blanc à Emmanuel Macron, c'est que dès le 1er mai, on est dans la rue, mais on le sera également le 8, parce qu'on sait qu'il prévoit, lui aussi, d'une certaine manière, de présider à base de coups d'ordonnance, dont on sait combien c'est antidémocratique.
Alors justement, le 1er mai, place la République, je cite, deux points. Pour battre le FN le 7 mai et pour combattre la politique libérale de Macron dès le 8 mai et dans les urnes des élections législatives. C'est l'appel à la manifestation lancée par le Parti communiste français. Mais à la fin, on en parlera de cette manifestation demain parce que c'est important. Parce que, en revenant un petit peu ce qui s'est passé le 23, contrairement au 21 avril, quand Monsieur Le Pen il est passé au deuxième tour face à Jacques Chirac, il y a eu tout de suite des manifestations. Alors le 23, à Paris, il y a eu une petite manif, il n'y a pas de réaction surtout de la part des jeunes, parce qu'en 2002, les choses étaient complètement différentes.
Alors bon, je crois qu'il ne faut pas non plus mésestimer le sentiment de colère qui peut exister chez les jeunes et chez les moins jeunes. Je crois qu'effectivement, le fait qu'on n'ait pas assisté au même type de manifestations montre aussi combien on a banalisé l'extrême droite, combien ces idées sont devenues de plus en plus diffuses et se sont installées dans la société française, et combien il existe une porosité, notamment entre l'extrême droite et la droite, qui a pu faire sienne à un moment donné des propositions et des idées qui étaient jusqu'alors exclusivement portées par l'extrême droite. Donc effectivement, c'est un danger. On le voit entre les dernières élections régionales et cette élection présidentielle, l'extrême droite continue de marquer des points puisque elle n'a jamais été aussi forte. Elle a gagné 1 million de voix, ce qui n'est pas rien. D'où, je dirais, l'urgence de combattre là l'extrême droite. C'est le cas le 7 mai, mais d'aller plus loin sur les causes du vote de l'extrême droite. Et en ce sens, il y a besoin de revoir radicalement toutes les politiques qui ont été menées ces dernières années, qui ont accentué la crise, et dont on sait, quand on est en situation de crise, il est bien plus facile de se tourner vers son voisin ou vers le salarié d'à côté plutôt que de vers les responsables de cette crise. Et c'est ça qu'il faut démystifier.
Ou alors se retourner contre l'étranger, parce que apparemment, les immigrés, s'il y a du chômage, c'est à cause des immigrés. S'il y a l'insécurité, c'est à cause des immigrés. S'il y a des terroristes, c'est à cause des immigrés.
Ce discours n'est pas franchement nouveau. Et si on regarde tout au long de l'histoire, lorsque les premiers immigrés italiens, polonais sont arrivés, on avait le droit même discours. Lorsque par la suite les exilés républicains sont arrivés en France, dont on sait combien ils ont joué un rôle important dans la résistance et la libération de la France du nazisme, puis les Portugais, puis les Espagnols, ce discours-là, il est rance, il est vieux. Et il est faux. Il y a des études qui montrent que l'immigration n'a absolument pas un coût, mais au contraire a plutôt un impact positif sur l'économie. Donc c'est pour ça qu'il faut démystifier ce que nous appelons l'imposture du Front National.
Oui, parce que si y a quelqu'un qui avait lancé un mot d'ordre, si les immigrés arrêtaient de travailler pendant 24 heures pour que les gens se rendent compte de l'influence que ça a dans notre vie quotidienne.
C'est un réalisateur mexicain qui avait lancé l'idée d'une journée blanche aux États-Unis, en demandant aux immigrés, notamment mexicains, de cesser de travailler. Et donc, il montrait que tout un pan de l'économie états-unienne serait de ce fait complètement paralysé.
Alors, vous êtes candidate, donc je pense que vous avez un certain nombre de choses à proposer à vos électeurs. J'aimerais bien qu'on parle des services publics, parce que un certain nombre de choses sont en train de disparaître dans les villes. Les permanences de la CAF, question de location familiale, disparaissent. La sécurité sociale disparaît aussi, etc., etc., etc. La Poste. Concrètement, dans le 94, cette année, il y a combien? Il y a 10% des bureaux
10% des bureaux de poste qui sont menacés, qui risquent de fermer si on laisse faire avant la fin 2017. Depuis plusieurs semaines, les communistes de Villejuif, mais pas seulement, c'est vrai dans d'autres villes, d'abord nous alertons la population parce qu'elle n'est pas au courant, nous faisons signer une pétition et nous créons les conditions d'un grand débat autour de la sauvegarde et de l'amélioration, parce qu'il ne suffit pas simplement de défendre, il faut améliorer les services publics. On sait que la Poste, dans plein de quartiers laissés à l'abandon parce qu'il y a de moins en moins de services publics, constitue un maillage essentiel pour les populations, et on n'ose même pas imaginer quelles conséquences ça aurait. C'est très révélateur de toutes les politiques qui ont été menées ces dernières années. À savoir, il y a trop de dépenses publiques dans ce pays, il y aurait trop de fonctionnaires dans ce pays, lorsqu'on sait que la France a moins de fonctionnaires que la Grande-Bretagne, par exemple, ou l'Allemagne. La Poste, c'est une entreprise qui réalise des bénéfices. La Poste, c'est une entreprise qui a bénéficié, au même titre que d'autres multinationale, du crédit d'impôt emploi compétitivité.
Plus de 320 millions d'euros.
315 millions exactement d'euros, pardon, en 2015. Où est l'emploi créé? Où est l'emploi préservé? Je le dis depuis plusieurs mois maintenant, si je suis élue députée, et je l'espère avec une forte majorité de gauche, premièrement, je me battrai pour l'installation d'un moratoire sur le CICE. Cet argent public destiné aux entreprises, qu'est-il devenu? Combien d'emplois créés? Et deuxièmement, j'abrogerai ce CICE qui est en fait des cadeaux patronaux offerts à des grandes entreprises, des multinationales qui bénéficient, qui réalisent de grands bénéfices et qui ne créent pas d'impôts, alors qu'il s'agit d'argent public.
Même Total a bénéficié aussi.
Total, Sanofi, on peut faire une liste et elle est énorme, on parle maintenant de plus de 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, on veut avoir les résultats. Or, selon vraisemblablement les études qui ont été réalisées, on parle de 50 000 à 100 000 emplois créés ou préservés. C'est-à-dire que c'est des emplois qui ont coûté autrement plus cher que lorsque les 35 heures ont été instaurées.
Alors, services publics, il n'y a pas que ça, parce qu'on connaît qu'en France, il y a une crise économique, sociale, la précarité est là, le chômage est là. Qu'est-ce que peut faire un député s'il n'est pas au gouvernement?
Tout dépend de la majorité. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut transformer l'essai du bon résultat de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de la présidentielle, puisqu'il a réuni 7 millions de voix. Il faut que l'Assemblée nationale soit réellement la maison du peuple. Et donc qu'il y ait beaucoup, beaucoup de députés communistes, insoumis, écologistes, abonistes, qui sont clairs sur faire premièrement barrage aux politiques d'austérité parce qu'elles sont un non-sens économique et qu'elles aggravent la crise et la situation de détresse sociale de bon nombre de gens, et de proposer des politiques alternatives qui améliorent de manière considérable le quotidien des hommes et des femmes dans ce pays. Oui, il est possible d'augmenter les salaires. Réduisons les plus hauts salaires. Encadrons les plus hauts salaires dans les entreprises. Ça constitue une manne d'argent très importante pour créer de l'emploi. Et qui dit création d'emploi dit salaire. Et qui dit salaire dit consommation. Et relance de la production. Il faut inverser les logiques à l'œuvre, parce qu'on nous explique que la modernité, c'est justement de casser les services publics. Sauf que ça fait 30 ans qu'on fait ça. Et que ça a contribué à déstabiliser des centaines de milliers de foyers, pour ne pas parler de millions de foyers dans ce pays.
Ça concerne aussi la santé. Quand on voit la situation des hôpitaux actuellement, le personnel, bon, il peut plus. Alors, Monsieur Fillon proposait même de passer aux 39 heures sans augmentation de salaire, plus de travail, moins de salaire, en quelque sorte. Alors, ils sont déjà assez... Bon, il manque du personnel. Il y a le burn-out, comme on appelle, etc. Donc, service de santé, ça va être quoi? Ça va être privatisé d'une certaine façon. Tout le monde aura le droit, ceux qui n'ont pas d'argent, la CMU, et les autres qui se débrouillent.
Dans le cadre de ma campagne électorale, j'ai rencontré des syndicalistes qui travaillent notamment à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, puisque Villejuif a cette spécificité d'avoir des hôpitaux. La souffrance est absolument terrible. Terrible, leurs conditions de travail se sont grandement dégradées. Ce sont des services entiers qui ont été fermés. Ce sont des services entiers qui ont été transférés dans d'autres hôpitaux. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation d'engorgement par ailleurs. Ils disent combien ils ne peuvent plus répondre à leur première mission, qui est de soigner, indépendamment des origines des uns et des autres, de leurs moyens. Moi, je pense qu'il faut absolument cesser cette logique de casse sociale, de privatisation, en abrogeant, premièrement, toutes les circulaires, que ce soit celle de Touraine et de Bachelot. Et vous évoquiez avant le manque de personnel. Faisons sauter les numerus clausus aujourd'hui qui empêchent la formation, parce que c'est pas simplement dans les hôpitaux, c'est aussi les structures de proximité, les centres de santé qui sont les premiers frappés par l'austérité et le manque de
PMI et autres.
Tout à fait.
Alors j'ai parlé des PMI, bien entendu, je vais revenir en enfance. Les questions des crèches. Alors, bon, ça, c'est un cas concret. On sait qu'au niveau local, bon, il y a une certaine responsabilité des maires, ou tout au moins, ils peuvent intervenir. Quand j'ai dit les crèches, je pense aussi à l'enseignement primaire, et RSZ sont disparus. C'est donc tout ce soutien-là, des enfants qui ont des difficultés, surtout dans les quartiers pauvres, parce qu'on parle de quartiers sensibles. Le quartier populaire, le quartier pauvre, tout court, non? Pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot de sensible? Qu'est-ce que ça veut dire?
Sensible parce que effectivement on a concentré des populations aux revenus moindres qui cumulent souvent chômage, précarité. Moi je n'aime pas la stigmatisation, parce que souvent dans ces quartiers-là, il existe aussi de formidables solidarités, un tissu associatif, je pense notamment aux femmes, mais également aux jeunes et aux moins jeunes, qui justement pallient au manque avec l'aide aux devoirs. Et toutes ces énergies et tous ces talents, il faut au contraire, bien évidemment, les mettre en avant. Ce qui n'empêche qu'il y a des responsabilités, et les responsabilités doivent être pointées. On est dans une logique d'austérité, de baisse constante et permanente des dotations, notamment aux collectivités territoriales, dont on sait qu'elles assurent les premières réponses à des situations d'urgence. Or, ces dernières années, c'est moins 10 milliards. Et Emmanuel Macron ambitionne d'autres coupes budgétaires. D'ailleurs, il s'est permis d'intervenir au Congrès des maires de France, et indépendamment de l'étiquette politique des maires qui étaient présents, tous lui ont rappelé qu'avec moins 10 milliards, ce sera forcément moins d'attention à leurs concitoyens, à leurs administrés.
Oui, d'autant plus que M. Macron propose 150 000 fonctionnaires de moins. Alors, où est-ce qu'il va sabrer?
C'est une bonne question. Moins de fonctionnaires où? Dans nos mairies? Moins de personnel soignant dans les hôpitaux? Moins d'enseignants? Alors qu'on a besoin davantage d'enseignants? C'est une bonne question, mais c'est la question qu'il faut poser à Emmanuel Macron et aux candidats qui se présentent sur les différentes circonscriptions. Cette logique-là d'austérité est mortifère. Elle est mortifère pour l'économie, et elle l'est pour des millions de Françaises et de Français. Il faut sortir de ça. Il faut absolument sortir de ce non-sens.
Pour cela, bon, on a vu que les manifestations contre la loi El Khomri n'ont pas fait bouger le gouvernement. Les syndicats sont divisés aussi là-dessus. Alors comment, justement, de réussir à cette unité de la gauche pour renverser la vapeur le 11 et le 18 juin. Comment faire? Parce que bon, est-ce que c'est possible une alliance entre guillemets avec ce qui reste du PS, mais quel PS, les frondeurs ou les non-frondeurs?
Alors, d'abord Arthur, je me permettrais de... Allez, de dire je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Non, je vous pose la question.
Concernant l'unité syndicale, parce que il me semble que justement la grande force du mouvement contre la loi El Khomri, c'est à l'exception d'une confédération qui s'appelle la CFDT, il y a eu une unité syndicale.
Et même Force ouvrière était devant.
Force ouvrière était devant, et son secrétaire général Jean-Claude Mailly, il était en tout cas membre du Parti socialiste et il se disait socialiste et en profond désaccord avec cette loi. D'où l'importance de regarder d'abord ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et je crois que bien souvent on se perd dans nos divergences plutôt que dans nos convergences. Moi, j'ai manifesté contre la loi El Khomri. Je n'ai pas demandé à celui qui était à côté de moi de savoir quelle carte de parti ou à quel syndicat il appartient. Cela ne m'intéresse pas. J'étais unie avec lui dans la rue pour combattre cette loi qui est une casse du Code du travail, une casse des droits des salariés. Eh bien, moi, je crois que les 11 et 18 juin, il faut avoir cette même dynamique, cette même ouverture d'esprit, non pas de taire ce qui nous différencie, mais de travailler à un pacte de progrès, à des idées centrales en termes de pouvoir d'achat, d'emploi, de services publics, de démocratie, de questions aussi de paix, tellement importantes en Europe et dans le monde, de se mettre d'accord, mais pas simplement entre partis, entre citoyens, travailler à des ateliers législatifs avec la population, bien évidemment, pour essayer de construire ce projet-là et de le porter, et d'être très nombreux à le porter pour qu'il y ait une majorité. Et c'est possible. On sait que toute la gauche est arrivée en tête dans plus de 260 circonscriptions. Faisons cet effort-là. Ne passons pas à côté de l'opportunité que nous avons et de nous mordre les doigts, parce que on pourrait assister, si on ne s'unit pas, si on ne se rassemble pas, à une assemblée qui serait bleue ou macroniste ou pire encore brune.
Ça suppose que Jean-Luc Mélenchon peut-être change de position. Parce que quand on parle des résultats obtenus par Jean-Luc Mélenchon, il faut rappeler que le parti de gauche, son parti, bon, il existe, mais enfin, bon, c'est pas une force. Tout le monde sait qu'effectivement, c'est le maillage du Parti communiste français au niveau local, etc., qui ont travaillé. Et qu'est-ce qui va se passer justement au niveau des élections du 11 et 18? Quel candidat? Parce qu'on prête, on dit que M. Jean-Luc Mélenchon va présenter des candidats France insoumise. Comment est-ce que le Parti communiste français voit cette situation? Parce que les résultats de M. Mélenchon, c'est grâce à vous qu'ils les ont obtenus aussi.
Disons que Jean-Luc Mélenchon a enregistré ses meilleurs scores dans les villes communistes, là où le Parti communiste français a une forte assise, du fait de soit parce qu'il administre la ville, soit parce qu'il y a effectivement une organisation très très importante. Je voudrais rappeler que durant toute l'année 2016, le Parti communiste français a organisé ce qu'on appelle les lundis de la gauche, en invitant des partenaires socialistes, écologistes, des syndicalistes, des responsables du mouvement associatif, pour discuter autour de grandes questions qui font enjeu, qui font sens, afin de travailler ensemble à une candidature qui nous soit commune, afin qu'elle se qualifie au second tour. Ça n'a pas été possible, je le regrette, mais cette main tendue, cette porte ouverte, elle l'est encore. Moi, je ne me satisfais pas du non-dialogue. Depuis maintenant le mois de novembre, nous cherchons à rencontrer l'ensemble de nos partenaires du Front de Gauche, de la France Insoumise, et puis au-delà, d'autres partis qui constituent aussi la gauche, comme le nouveau parti anticapitaliste, pour essayer de travailler au rassemblement. Parce que le risque est grand que la gauche de transformation sociale et de progrès soit disqualifiée à partir du premier tour du 11 juin. Et les conséquences, elles ne sont pas terribles pour une histoire de boutique, parce que le Parti communiste français aurait pas qualifié ses députés ou la France insoumise. Les conséquences, qui risque de les payer, c'est les femmes et les hommes qui, dans ce pays, aspirent à des politiques de rupture totale avec le néolibéralisme à l'œuvre depuis maintenant trois décennies.
Mais vous pensez qu'il y a un risque pour la démocratie en France ?
Je pense que la démocratie est en très mauvais point. est mal en point, et ça c'est une réalité, la façon dont les différents gouvernements ces 30 dernières années ont gouverné, on est bien la preuve. Le fait que un nombre constant de citoyens ne se rendent plus aux urnes, c'est aussi un symptôme de ça, où se rendent et votent blanc parce que ce qu'on appelle l'offre politique, ou en tout cas les propositions qui sont sur la table, ne paraissent pas satisfaisantes. Donc oui, tout cela sont des éléments révélateurs du sentiment que la politique ne sert à rien, du sentiment d'avoir été floué à très juste titre parce qu'on a voté.
Trahi, il y a des gens qui considèrent qu'on a été trahis.
Mais bien sûr. Quand la gauche, et je parle de ce qu'est la gauche, quand la gauche renonce à faire des politiques de gauche, et qu'elle se fourvoie et qu'elle s'aligne sur la droite en matière de politique économique et sociale, oui, on peut appeler ça une trahison.
On va faire une pause commerciale, et après on va passer une musique, parce que j'aimerais bien que Marc Augerin nous aide à voir un petit peu plus clair. À tout de suite.
Faire des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande, du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB, 01 43 89 53 35.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerres signoles et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant.
Quand... Le temps des cerises, Marc Augerin, la Commune de Paris. C'est vrai que la Commune de Paris, bon, je me rappelle la semaine sanglante, etc. L'espoir justement déjà pour le 7 mai, parce que c'est important, parce que c'est une étape, et après pour les élections, parce qu'il y a un certain pessimisme. Vous êtes candidate, donc vous êtes là pour vous battre, mais vous allez avoir des adversaires en face. Comment est-ce que vous voyez tout ça concrètement?
Alors, pour répondre dans l'ordre à vos questions, le 7 mai, sans hésitation, il faut barrer la route au Front National, à l'extrême droite, parce que non, ce n'est pas un parti comme un autre. D'ailleurs, je suis assez inquiète, et c'est aussi une invitation à mes confrères et mes consoeurs à regarder ce qui se passe actuellement depuis le premier tour, avec une recrudescence d'actes racistes, des tags de croix gammée, des réflexions auprès de personnes immigrées à qui on dit « bah bientôt tu vas reprendre ton bateau et tu vas rentrer chez toi ». Tout cela est très très inquiétant. Ce qui ne veut pas dire que le 7 mai, cette bataille contre le Front National est finie. Au contraire, elle était vraie avant et elle se poursuivra après dans une opposition aussi frontale à tout ce qui fait le terreau du Front National, la malvie, la misère, le renoncement à de véritables politiques de progrès avec des revalorisations de salaires, de pensions, de tout ce qui améliore le pouvoir d'achat. Et puis et cette bataille-là, elle sera bien évidemment essentielle les 11 et 18 juin, parce que ce que je disais tout à l'heure, de transformer l'essai, créer les conditions que l'Assemblée nationale ne soit pas bleue, macroniste ou brune, c'est aussi faire le choix de candidats qui portent des propositions novatrices en ce sens et qui puissent faire à la fois un mur de résistance face à toutes ces prétentions, encore une fois, austéritaires, et porte réellement des politiques alternatives. J'ai envie de dire, c'est pas du pessimisme. Il y a des situations qui sont graves. Il faut les juger, les jauger et prendre les mesures qui s'imposent. Mais moi, je suis aussi pleine d'espérance et pleine de dynamique, parce que durant cette campagne de la présidentielle, on a senti un espoir se soulever vraiment, et que cet espoir-là, il doit se transformer les 11 et 18 juin.
À propos d'espoir, la révolution des ayés, 25 avril 1974, on a déjà en ligne Emmanuel de Marcy, moteur de petites secondes. Écoutons.
Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais.
Afonso, Grande Ville Morena, Emmanuel de Marcy Mota, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette édition 8e édition Chantier d'Europe, tout démarre le 2, ça veut dire après-demain, avec une exposition sur la révolution des ayés. Alors, c'est un symbole, finalement, ce démarrage de 8e édition des Chantiers d'Europe.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que Chantier d'Europe, c'est un moment où on réunit des artistes de plusieurs pays européens, des artistes, des intellectuels, mais c'est aussi le moment d'échanger avec différents directeurs, directrices de théâtre dans d'autres villes, que ce soit à Lisbonne, à Madrid et ailleurs. Et on s'est posé la question pour démarrer cette édition, au vu d'un an, deux ans, de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on appelle en France le repli sur soi, d'une Europe où la montée des extrémismes, et là je ne parle pas des questions économiques, et des vraies, je dirais, questions de société politique, dans le sens de ce qui peut vraiment nous effrayer aussi, qui est cette montée des extrémismes dans beaucoup de pays d'Europe, et pas seulement en France, par rapport à ce qu'on sait du vote Front National. Donc, il me paraissait important de pouvoir, bien sûr, parler de l'Europe d'aujourd'hui, de l'Europe demain, à travers les artistes, ceux qui font l'Europe, d'abord, ceux qui circulent, qui y portent des œuvres et du sens, du contenu, de l'imaginaire aussi, de la création, sont inventifs, mais que cette édition alors soit ouverte par un rappel. C'est un rappel finalement de se dire que dans beaucoup de pays d'Europe, eh bien, les dictatures étaient en place il n'y a pas encore si longtemps que ça. Que l'idée du progrès est une belle idée, mais que ça se fait souvent lentement. Et pour le rappeler, le Portugal, comme vous le savez, était une dictature des plus longues en Europe, et qu'elle n'a cessé qu'en 1974. Donc je dirais que c'est quelque chose de récent. Pour beaucoup, ça paraît loin, mais c'est récent. Et qu'une des questions qui nous a animés, c'est cette question de la transmission. De transmettre aussi à des générations nouvelles, à d'autres, qu'est-ce qu'une connaissance de comment une révolution arrive et pour quel motif, à un moment, il faut vraiment se battre pour la démocratie. Et comme on l'entend dans la chanson de José Afonso, aussi la solidarité et la fraternité. Donc ce sont des mots, mais ce sont des mots qui ont été portés par des luttes. Et il faut que ces luttes, on s'en souvienne, et que rien n'est acquis. Peut-être que En un mot, c'est de dire que rien n'est acquis, que ces idées de liberté, d'égalité, de fraternité ne sont pas toujours acquises et qu'elles peuvent toujours être mises en question. Et pour ça, il faut bien connaître aussi cette histoire.
Alors, Emmanuel de Marcine Motin, finalement, quel est le rôle de la culture? Parce que quand on parle de culture, en principe, on associe toujours rencontre et partage.
Bah oui, c'est-à-dire que, je dirais même ouverture. C'est-à-dire que la culture, c'est ce qui doit nous aider à avoir une ouverture, un regard sur l'autre, sur le monde, sur la différence. Et je dirais même sur l'étranger. L'étranger, pas seulement du point de vue des nationalités, mais de ce qui nous est, je dirais presque philosophiquement ou personnellement, étranger. C'est-à-dire ce que nous ne connaissons pas. Et c'est évidemment par l'intelligence, la connaissance qui est accessible à tous et que chacun... maintenant, il faut donner les moyens, dès le plus jeune âge, à chaque enfant dans une nation, dans un pays, de pouvoir avoir accès, justement, avoir accès à cette ouverture, à ce partage, pour arriver à ce dialogue. Donc, culture, c'est bien, il faut, et on le sait bien, c'est un mot qui a un peu perdu de son sens, d'ailleurs, au fur et à mesure des années, parce que finalement, tout devient culture. L'économie devient presque la culture d'un pays. Donc, il faut la nourriture. Donc, à un moment, il faut redonner un peu de précision à chacun de ces mots, et en particulier au mot art. La culture englobe l'art, mais c'est par l'art qu'il y a la création, c'est-à-dire le doute. La création est le lieu du doute, de l'inquiétude, comme disait le grand poète Fernand Pessoa, de l'intranquillité, non pas de l'inquiétude morose face au monde, mais de cette profonde inquiétude avec soi-même dans son existence, et qui nous permet alors de construire, comme dit Camus, des entreprises collectives pour essayer de travailler à l'espoir et ne pas être dans une vision pessimiste et déclimiste. Donc c'est bien les mots que vous avez envoyés et employés, qui sont ceux d'ouverture, de partage, de dialogue qui sont nécessaires.
Alors, quand on pense Châtier d'Europe, théâtre, danse, musique, des arts visuels, alors si on peut se concentrer un petit peu sur la programmation qui vient du Portugal, alors il faut dire que le dernier événement, ça va être le concert de Serge Gainsbourg le 20 mai. Alors Serge Gainsbourg, on revient un petit peu au début, Serge Gainsbourg a été exilé ici en France également.
Oui,
donc voilà, le choix cette année de la programmation dite portugaise entre guillemets, parce qu'il faut dire que d'autres pays sont représentés, les Pays-Bas, l'Espagne, la Croatie, la Grèce et le Royaume-Uni.
Oui, absolument. D'abord, juste un mot très rapidement, le Royaume-Uni est en sortie d'Europe volontairement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu Brexit aujourd'hui. Justement, c'est de dire à nos amis anglais, artistes, spectateurs, publics, attendez, nous maintenons ce lien culturel et artistique. C'est pour ça que symboliquement, j'ai souhaité que le Royaume-Uni soit présent dans cette édition. Par rapport au Portugal, il y a plusieurs propositions. Il y a huit propositions artistiques de théâtre, de danse et de musique, effectivement. La ligne directrice, c'est aussi de donner la parole, de donner à entendre des artistes qu'on voit peu en France ou pas assez souvent du côté portugais. Toutes les éditions, depuis la naissance de Chantier d'Europe, qu'on a lancé à Paris avec un très grand soutien, et je le salue, d'Antonio Costa, lorsqu'il était maire de Lisbonne, était l'idée que des artistes entre Lisbonne et Paris circulent. On retrouve cette idée que vous venez de mentionner, qui a existé avec Serge Gainsbourg et tant d'autres artistes, vous-même et tant d'autres, comme personnes qui se sont retrouvées à un moment dans leur existence à vivre en France. Soit pour des raisons politiques, liées au salazarisme, à la dictature, soit pour des choix économiques, soit pour des raisons aussi d'attraction de la France par rapport à ses grandes valeurs, justement celles qu'on a citées, de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc c'était important de donner la parole à Serge Gainsbourg, qu'on ne voit pas si souvent que ça à Paris, qui est venu il y a longtemps, mais qui est un artiste immense, qui sera accompagné de Philippe Prépose, mais également d'une jeune rappeuse. Donc on va entendre aussi toute cette histoire d'un homme qui a été à un moment effectivement exilé, qui a débuté sa carrière à Paris, qui a même travaillé dans la comédie musicale R, à Paris à l'époque, qui a voyagé dans le monde entier, et qui a ému tout le peuple portugais par ses chansons. Donc c'est un bonheur de pouvoir inviter Serge Gainsbourg et de lui donner justement la parole. Et il y a aussi des artistes de danse comme Vera Monteiro, qui est une très grande chorégraphe portugaise, que l'on voit aussi pas assez à Paris ou en France, qui est une artiste qui est aujourd'hui préoccupée par la construction d'une société durable, qui se pose la question, ce sont des artistes qui s'engagent dans des questions de société. De Silva Frag est un artiste aussi de danse contemporaine aujourd'hui, qui a une réflexion sur la généalogie, sur les réminiscences d'une génération à l'autre, de la transmission D'autres œuvres aussi sont présentées autour de la guerre civile espagnole par un artiste espagnol qui travaille à Lisbonne, qui a eu beaucoup de prix à Lisbonne, et aussi des spectacles pour enfants portugais. J'attire votre attention là-dessus. C'est qu'il y a un très bon et une très grande qualité de création aujourd'hui au Portugal, y compris par des jeunes artistes qui font un travail extraordinaire en direction des familles et qui font des spectacles familiaux comme Miguel Fregat et Inés Pagnonia, qu'on avait déjà invité dans un autre chantier d'Europe et qui nous ont vraiment conquis le public aussi français, je veux dire français ou d'origine portugaise, et qui découvrent en famille un très très beau travail que j'invite vraiment à découvrir.
Emmanuel de Marcy, merci bien d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous êtes acteur, auteur et directeur du théâtre de la ville de Paris. Donc bon vent pour la 8e édition des Chantiers d'Europe. Merci
de m'avoir invité. Et bon vent à vous, Radio
Alpha. Ah oui, et demain, on aura votre chronique que nos éditeurs pourront écouter à Radio Alpha. Il ne faut pas l'oublier.
Allez, merci. Merci beaucoup.
Merci également à Catherine Dussantos. Je rappelle, les candidates PCF, Front de Gauche, dans la 11e circonscription du Val-de-Marne, Arcueil, Cachan, Gentilly, Villejuif, Val-de-Marne. Et demain, vous allez être à la manif, je suppose.
Bien sûr. Je serai des manifestants.
Merci. Et bien entendu, qu'on va accompagner tout ce qui va se passer les prochaines semaines. Le 7, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle, et un peu plus tard après, au 11 et 18 juin, on aura les élections législatives, 18 juin, une date peut-être symbole ici, l'appel du général de Gaulle, donc on ne va pas anticiper les choses, ni dramatiser les choses, on passe à des choses moins sérieuses, c'est la pub, mais ça rapporte.
Anos. Os Móveis Elmo festejam o seu 30º aniversário. Aproveite e troque os seus móveis de sala ou de quarto a preços imbatíveis. Temos 30% de desconto sobre a maioria das coleções e até 50% ou 60% de desconto nos móveis e fim de stock. E ainda facilitamos o pagamento em 3 ou 4 vezes sem juros. Móveis Elmo. Visite-nos na loja da ANR, número 384, Avenida da Argenteia, telefone 01-47-99-2198 ou em Bondi, número 164, Avenida Caini, com o telefone 01-84-210808. Também disponível em mabu-elmo.fr. Móveis Elmo. Não é por acaso que vendemos móveis há mais de 30 anos.
Antoine Griezmann appelle l'outline du magasin Sport 2000 de Châteauroux.
Allô, c'est Antoine. Je voulais faire un dernier débrief avec toi.
Sur notre petit short de marque? Eh bien, chez Sport 2000, notre sélection s'adresse aux hommes, aux femmes et aux enfants. Et jusqu'au 14 mai, le t-shirt de marque revient à 9,95€.
Ça, c'est bon esprit.
Ça match.
Voir conditions en magasin.
Et si on vous offrait chaque semaine 1000 bonnes raisons d'aller au resto?
Pour un moment entre amis, un premier rendez-vous, pour découvrir de nouvelles saveurs.
Chaque semaine, 1000 bons cadeaux sont à gagner pour aller au restaurant. Jouez en envoyant la photo d'une addition sur laviauresto.fr.
Au resto, la vie a du goût.
Règlement du tirage au sort sur laviauresto.fr.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Estamos aqui ao direto desta feita, vamos falar na língua de Camões. Há bocado falamos na língua de Voltaire, há quem diga de Molière, mas enfim, isto ainda tem a ver com a cláusula Molière. Não estamos aqui para falar nisto hoje. Uma surpresa que foi feita neste programa, não estava previsto, mas, como diz o outro, é a atualidade que prima. Ferreira das Aves. Ferreiras de Aves. Que os nomes sejam ditos corretos. Há uma festa anual que se realiza aqui, na Rádio Alfa, na Sala Vasco da Gama, já há um certo número de anos esta parte. Evidentemente que hoje a festa começou tudo com uma missa, agora vai haver o almoço, vai haver folclore, vai haver toda uma série de coisas, e a partir das 21h30, se eu compreendi bem, então aí é para o baile, dar corda ao sapato, como diria alguém que eu conheço bem. Connosco aqui nos estúdios, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setão, Alexandre Vaz, muito boa tarde.
Boa tarde. E igualmente a senhora Virgínia Figueiredo, da Junta de Freguesia de Aves. Ora, para os nossos ouvintes que não são de Ferreira de Aves, talvez nos possam situar isto um bocadinho. Que onde é a procura? Digo sinceramente, onde é a procura? Sr. Presidente da Junta de Freguesia.
Bom dia, muito obrigada ao convite da Rádio Alfa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa e, sobretudo, aos ouvintes portugueses, aos ouvintes de forma especial que são de Ferreira de Aves e seus amigos. Onde fica Ferreira de Aves? Pois no coração de Portugal. Onde é que poderia ser? Melhor sítio para ficar, coração de Portugal.
Isso faz uma maneira Guimarães, isso?
Oh, não, o Guimarães está mais para a cabeça.
Ah, não,
Ferreira
é,
de Aves, Ferreira de Aves é mesmo o coração. É o coração. E fica balizado Ferreira de Aves, uma grande freguesia, constituída por 20 e tal povoações, e tem a norte o rio Paiva, o menos poluído da Europa, e isso penso que já é interessante ouvir para todo o vasto público da Rádio Alfa, e no sul tem o rio Volga, que vem desaguar o Oceano Atlântico, ali na linda cidade de Aveiro, junto à cidade de Aveiro, dos ovos moles, das grandes tradições que eu já vi ali na vossa entrada, um grande placar também sobre Aveiro. É aí que fica Ferreira de Aves. Zona interior de Portugal, zona de... em que a história prima, em que a natureza nos abençoou com paz, com floresta, com os rios e as trutas e a pesca e a caça, que nos leva muita gente a Ferreira de Aves.
Mas, infelizmente, muita gente partiu da região, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sétão, achando Vaz, é uma zona de imigração também, não foi? Foi? Será que ainda continua a ser?
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa. Um agradecimento também por este convite. E Ferreira de Aves, e sobretudo o Conselho de Sátão, é sobretudo uma zona de imigração e ainda hoje continua a ser. Não tanto como na década de 60 e de 70, que imigraram milhares de pessoas, sobretudo para a Europa, e neste destino está a França, mas ainda hoje continuam a haver imigração. Uma imigração diferente dos anos 60 e 70, em que imigravam pessoas com menos conhecimentos. Hoje, infelizmente, e eu digo infelizmente porque o país não tem capacidade ainda de fixar os seus jovens, e sobretudo jovens já com conhecimentos completamente diferentes, temos ainda gente, pessoas do nosso concelho que muita falta nos fazem a emigrar para a Europa, para a França, para Luxemburgo, etc.
Mas esses quadros, essas pessoas formadas não são necessárias, sobretudo em regiões como a vossa, porque quem diga, bom, a Portugal é o Porto e a Lisboa, o resto deixam de lado. Como conseguir fixar isso? Será que a nível do poder local, o que é que vocês podem fazer? Estão limitados a nível financeiro, o governo, as dotações não vêm também. Portugal é um país muito centralizado, por vezes não tem uma certa raiva, uma certa revolta de não poderem reagir. Eu sei que também a nível da Junta de Freguesia aí tem que se bate mais à porta, porque vocês estão mais próximos.
Pois, nós somos o poder em primeira linha de proximidade. Quando rebenta um cano d'água, quando é preciso que há um fogo, que há alguém que precisa de repente fazer um telefonema, de tratar dos papéis da reforma cá em França, da prova de vida, é à Junta de Freguesia que se vai. À meia-noite, à uma da manhã, porque se entende e sabe-se onde está, olhos nos olhos, onde está o Presidente, neste caso a Presidente, sabe-se onde vive, sabe-se que é um par que está ali, que habita com eles, na zona deles, e às 6 da manhã está a gente a bater à porta também. Portanto, nós estamos ali, na primeira linha, com todo o prazer. Porque quem veste esta camisola tem que o fazer, obviamente, por um dever de cidadania, a natureza interior de cada pessoa que compela as pessoas a ir, a prestar solidariedade, a ajudar quem precisa e, sobretudo, falou bem, saem pessoas, hoje continuam a sair, uma imigração diferente, mas ficam lá, na retaguarda, muitas pessoas, sobretudo os mais idosos, sobretudo aqueles que não têm tanta coragem de vir ou têm ali ligações mais fortes que os obriga a estar. E então essas pessoas, quem sai, sai preocupado. O que é feito o meu pai? O que é que eu deixo aqui este familiar? Pois ficam tranquilos, porque a Junta de Freguesia está na retaguarda e está atenta a toda a gente. Nós damos conta se as janelas abriram, passamos de noite e sabemos que ele está em França ou na Alemanha, mas a luz está acesa, o que se passa. Portanto, podem contar connosco sempre, porque estamos atentos, vigilantes, e contactamos sempre que é necessário. Portanto, a imigração acontece, mas hoje por outros deveres, por outros desígnios, e a nossa terra, costumamos assim, não temos que recear. A nossa terra, para a gente corajosa, é onde nos governamos e onde nos tratam bem, onde nos guardam respeito.
Ora, Sr. Presidente da Câmara de Sátão, existe a Associação Nacional de Municípios, Será que a vossa voz chega até lá? Será que a Associação Nacional de Municípios, como é que se transmite as vossas necessidades ao Governo Central? Como é que as coisas funcionam? Ou pelo menos como é que vê que isso está a funcionar?
Com certeza que a voz da Associação Nacional dos Municípios transmite muitas vezes, ou a maior parte das vezes, ou faz ouvir a voz dos autarcas perante a Administração Central. O problema que nós temos, como sabe, o Portugal é um país pobre. É um país...
Não é para todos. Nem todos são pobres.
Com certeza que não.
Nem todos são pobres.
Mas, de uma maneira geral, é um país com poucos recursos. Eu posso dizer, por exemplo, que a Administração Central, na maior parte dos países, dá, digamos assim, do bolo 17% às autarquias e nós recebemos apenas 12%. E somos aquelas que fazemos mais com menos recursos.
Sim, porque vocês são bastante importantes no que diz respeito ao investimento público.
Sim, com certeza que somos bastante importantes em relação ao investimento público. Fala-se hoje até em Portugal muito em descentralização, na descentralização que irá para as câmaras a nível da saúde, a nível da segurança social e a nível da educação. Mas para isso é preciso que isto seja acompanhado com o respectivo pacote financeiro, senão é impossível. Por outro lado, hoje em Portugal, sobretudo, o investimento é sempre maior no litoral, e não tanto no interior. No interior há menos capacidade de investimento. Apesar de as câmaras estarem preparadas para isso, eu posso dizer que no município de Sátão, neste momento, acabamos há relativamente pouco tempo uma zona industrial. Necessitamos é que alguém se instale e que crie postos de trabalho. E para isso é por isso que a Administração Central deve dar o poder às câmaras também de nós podermos decidir de dar a essas empresas outras contrapartidas que elas não têm e que são vistas da mesma maneira do que aquelas que estão no litoral. E aí é que nós precisamos dessa ajuda da Administração Central para conseguirmos revolucionar um pouco e, como há pouco dizia, fixar aí essas pessoas que têm hoje uns conhecimentos completamente diferentes e que chegam ao estrangeiro, são bem vistas e conseguem muito, e no nosso país não tem capacidade de o fazer.
E a propósito desse investimento público, resta-nos dois minutos, só acrescento algo, é muito importante que as empresas tenham ajudas, mas é importante também que as empresas não é ao fim de 4, 5 anos, que fecham a porta, a deslocalizam e aquilo que receberam não devolvem. E isso é outro problema, é o Governo Central, acabam os partidos políticos, não estamos aqui em campanha eleitoral. Queria agradecer aos dois terem vindo até aqui, estamos a chegar às 13 horas, mas agora é melhor falarmos de festa, de coisas mais... Também porque vieram para cá, até cá para isso, então.
A festa, olha, a festa para mim é uma festa extremamente importante, é uma freguesia do meu concelho, é a maior freguesia do meu concelho, como há pouco dizia a senhora Presidente de Junta, e portanto esta festa existe já há 8 anos e marca-nos. E marca sobretudo pela importância que as associações têm, sobretudo na integração da comunidade portuguesa em França e em outras. Temos praticamente 900 associações hoje em França de portugueses, e julgo que mesmo a integração dos portugueses foi muito, muito graças a essa associação. E esta é uma associação que também está no terreno e que não esquece aqueles que lá estão. Daí fazer esta festa, que é muito importante, dos oriundos de Ferreira de Aves, e que o município, e neste caso a Junta de Freguesia, não faz mais que a obrigação, porque é aqui que eles estão em deslocar-se aqui.
Muito obrigado, porque vocês também não vieram de mãos vazias, vem o grupo folclórico e de cantares de
Ferreira de Aves, com todo prazer, e dizer apenas uma palavra em jeito de despedida, agradecer à OFA, Associação dos Originários Ferreira de Aves, por mais esta festa, e dizer-lhes, da parte da Junta de Freguesia, que temos um grande orgulho nesta nossa gente de Ferreira de Aves aqui na região parisiana, e dizer-lhes que não os dispensamos. Precisamos deles sempre, e nós estamos lá sempre à espera deles. É o lugar deles. Mesmo que agora provisoriamente estejam em França ou definitivamente, mas lá é sempre seguramente também a casa deles. Muito obrigada a todos e à Rádio Alfa mais uma vez.
Bom, estamos já praticamente no mês de maio, julho e agosto, e estão eles, não é evidente. Muito obrigado. E estamos a chegar às 13 horas, bem hajam, e há que pensar no interior de Portugal, porque, como eu disse, Portugal não é só Lisboa, nem Porto Longe disso, Portugal está do outro lado. Obrigado.
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 Obrigado. Passagem de nível. Artur Silva.
quer ser um presidente próximo de todos, mesmo daqueles que vivem longe.
Sempre disse que estava a ganhar algo por Portugal, para entrar na história e conseguir.
É fundamental poder aproximar os nossos países e as relações culturais de todos nós.
A confiança económica de Portugal será terreno da França.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous. Dernière ligne droite avant le second tour de la présidentielle. Les candidats poursuivent leur campagne de terrain. Marine Le Pen a fait une visite surprise à Gardanne, près de Marseille ce matin. Elle a parlé écologie, énergie renouvelable et transition énergétique, des thèmes chers aux électeurs de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon. Demain, 1er mai, elle tiendra un grand meeting à Villepinte, près de Paris. Emmanuel Macron, lui, joue encore la carte de la mémoire en cette journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Le candidat d'En Marche doit se rendre sur le mémorial de la Shoah en fin d'après-midi. Il ira ensuite au mémorial des martyrs. Les deux se trouvent à Paris. Elle lui aussi tiendra un grand meeting demain dans la capitale. En Turquie, les purges se poursuivent après avoir limogé 9000 policiers. Les autorités viennent de révoquer 4000 fonctionnaires, des employés de bureau, des militaires ou encore des universitaires. Ils sont accusés de sympathie pour Fethullah Gülen, désigné par le pouvoir comme l'instigateur du putsch de l'été dernier. On passe au sport. La Ligue 1, 3 matchs au programme en clôture de cette 35e journée. À 15h, l'OM se déplace à Caen. Dijon reçoit Bordeaux à 17h et puis le choc Nice-Paris à 21h. Le rugby, 25e journée top 14, 2 matchs à suivre. La Rochelle-Montpellier en ce moment et puis à 17h le derby parisien Stade Français Racing 92. Le tennis et deux Français sur les courts cet après-midi au même moment à 15h. Lucas Pouille a rendez-vous en finale au tournoi de Budapest avec le Britannique Aljaz Bedin et puis Kristina Mladenovic, vainqueur hier de Sharapova en demi, affronte en finale tout à l'heure l'Allemande Laura Zygmunt. La mort de l'alpiniste suisse Uli Steck, 41 ans, il était considéré comme l'un des meilleurs au monde pour ses ascensions rapides. Son corps a été retrouvé ce matin près d'un sommet népalais sur l'Everest. Uli Steck aurait dérapé sur une pente recouverte de glace. La météo et la moitié ouest du pays en alerte aux orages. 22 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Alerte valable à partir de 14h. Cela va du département des Deux-Sèvres à l'Hérault, en passant par l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Des rafales à 100 km/h sont notamment attendues à Toulouse ou encore Périgueux. Voilà pour l'essentiel. Bon après-midi à tous.
Faire des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB, 01 43 89 53 35.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Cette année, en mai, vous êtes gâtés. 3 grands week-ends. C'est sûr, vous allez rouler plus. Et c'est pour ça que chez Feu Vert, le pneu Michelin est à partir de 30€ jusqu'au 13 mai. 30€ pour un pneu qui fait en moyenne 8000 km de plus que les autres marques. Appelons un chat un chat. Il n'y a que Feu Vert qui fait ça.
Offre soumise à condition, voir sur feuvert.fr.
Yes! Yes!
Sachant que cet homme vient de gagner 1000 fois son gain au simple jackpot de PMU, arrivera-t-il à exprimer 1000 fois sa joie pendant ce spot radio?
Yes! Yes!
PMU lance simple jackpot. Désormais, vous pouvez multiplier jusqu'à 1000 fois votre gain.
Yes! Yes! Yes!
Top! 36 fois. Avec un peu d'entraînement, on peut faire 1000.
PMU, pariez sur vous. Voir conditions au point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Leclerc. Chérie, une Renault Twingo en location, 4€ par jour chez Leclerc.
Non.
Si. Et pour 1€ de plus, tu as une Renault Clio à 5€ par jour.
Non.
Si. Et pour encore 1€ de plus, une Fiat Tipo. 6€ par jour pour une Fiat Tipo chez Leclerc.
Non.
Si.
C'est parce que partir en week-end ne doit pas être une question de prix que chez Leclerc, la location de voiture est disponible à partir de 4€ seulement. Hors frais kilométriques liés à chaque modèle. Voir modalité et magasin sur le site location.leclerc.
Twingo, Clio ou Tipo?
Y a quoi comme couleur?
Et si on vous offrait chaque semaine 1000 bonnes raisons d'aller au resto?
Pour un moment entre amis, un premier rendez-vous, pour découvrir de nouvelles saveurs.
Chaque semaine, 1000 bons cadeaux sont à gagner pour aller au restaurant. Jouez en envoyant la photo d'une addition sur lavieauresto.fr.
Au resto, la vie a du goût.
Règlement du tirage au sort sur laviauresto.fr.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
On revient au direct de ce passage à niveau dimanche et dimanche 30 avril. On est entre deux tours des présidentielles. On ne va pas parler de ça. On a déjà parlé avec notre première invitée, Catherine de Santos, candidate de PCF, Front de Gauche, dans la 11e circonscription du Val-de-Marne, Arcueil, Cachan, Gentilly et Villejuif. On va parler de la pièce Flore Belle, La sœur du rêve, pièce de théâtre en trois temps de Odette Brunck, édition Orphée. Cette pièce revient sur la scène parisienne, concrètement au Théâtre de l'Orme, le 6, le 20 et le 21 mai. Avec nous, on a le metteur en scène, David Garcia, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous reprenez la pièce, pas vous, bon, vous et bien entendu les acteurs aussi. Cette découverte de Flore Belle Spink de votre part, c'est quand est-ce que vous avez entendu parler d'elle?
Alors j'ai entendu pour la première fois le nom de Flore Belle il y a 3 ans, parce que en fait Odette m'avait déjà parlé d'elle, 3 ou 4 ans que je connais en fait Odette, et en fait elle avait commencé à travailler sur ce texte-là, et puis je me suis intéressé par sa poésie, par son travail, à la poésie de Flore Belle.
Donc c'est vous qui mettez en scène ces trois représentations. Façon résumée, pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous a accroché et qu'est-ce qu'elle raconte la pièce concrètement? Parce que d'après ce que j'ai pu voir et j'ai pu lire aussi, sont les derniers moments de Flore Belle Spink, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est tout à fait. On assiste aux dernières minutes, à la dernière heure en fait de la vie de Flore Belle. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse toujours, c'est la création artistique. C'est-à-dire que, en fait, sur les derniers instants de cette poétesse connue portugaise, en fait, sur la scène arrivent tous les archétypes qui ont traversé sa vie. C'est-à-dire son frère, l'idéal, elle dans une forme de pensée, elle jeune. Ces personnages-là qui m'ont fait accepter ce projet. C'est-à-dire que je trouve ça très intéressant que aux derniers instants de la vie de quelqu'un qui est connu ou qui a parcouru en fait une vie artistique, arrivent sur le plateau tous les instants, tous les doutes. C'est-à-dire est-ce que j'ai bien fait en fait mon métier d'artiste? C'est-à-dire est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de partir avec l'idéal comme sa mère était partie quelques années plus tôt? Est-ce que ma poésie correspond à mon désir d'absolu de ma jeunesse? Donc c'est toutes ces questions qui m'intéressent et qui m'a intéressé à mettre en scène.
Alors c'est une pièce avec la musique. Il y a de la musique, la musique, c'est musique originale de Bruno Bertoise. Voilà, on va l'avoir en ligne dans quelques minutes, parce que lui aussi, il a une autre actualité, et savoir avec la musique classique portugaise, bon, c'est une autre affaire. Parce que, alors, apparemment, une adaptation, justement, sur la base de la musique de Bruno Bertoise, il y a Daniel, qui va chanter. Concrètement, comment est-ce que ça s'est fait, ce travail de création?
Alors là, j'ai laissé Daniela Costa en fait mettre en relief en fait, la poésie de Flore Belle sur la musique de Bruno Bertoise. Ce que je voulais, c'était quelque chose, parce que la poésie à dire à l'heure actuelle au XXIe siècle, c'est quelque chose d'assez compliqué et à faire travailler avec les acteurs et à faire découvrir aux spectateurs. Et ce que je voulais, c'est le côté magique de la poésie. Pour moi, j'ai un rapport avec la poésie qui est plus proche, en fait, de... Pour moi, un poète est plus proche de certains chanteurs, certains compositeurs et musiciens des années 60-70 que l'image qu'on peut en faire et qu'on peut en avoir à l'heure actuelle par rapport à au monde contemporain. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur une forme originelle, c'est-à-dire originalité, de dire le vers poétique. Donc à chaque fois de trouver en fait quelque chose de différent. Jamais tomber en fait dans une forme de ronronnement poétique. Toujours trouver en fait une forme de surprise. Donc c'est pour ça que le travail avec Bruno Bertoise, enfin la musique de Bruno Bertoise, avec le travail de Daniela Costa, ça m'a vraiment beaucoup plu. s'intéresser, toujours pour trouver en fait une forme de surprise pour le spectateur de découvrir les mots.
Et d'ailleurs, on a eu, bon, quand aux premières représentations, c'était au théâtre, on avait reçu justement Daniel, et on nous a chanté a cappella. C'est étonnant parce que bon, la musique de Bruno Bertoal, c'est plutôt, disons, de la musique classique. Elle a donné une intonation de fado.
Tout à fait. C'est ce que je voulais découvrir, en fait, dans la mise en scène, en fait, n'importe qui peut venir, c'est en français. Et je voulais en fait quand même mettre des pointes de originalité portugaise. C'était très important pour moi. Et je pense que le fado et la musique classique portugaise et surtout en fait l'auteur avec lequel je travaillais, je voulais quand même y mettre des pointes d'universel portugais. Donc c'est pour ça que je voulais une musique qui soit proche du fado.
Alors, David Garcia, vous êtes metteur en scène, mais vous êtes également acteur. Quand on est acteur, on a une autre sensibilité pour faire une mise en scène.
Oui, parce que en fait, quand on est acteur, on essaye de trouver le côté invisible. C'est-à-dire que je pense qu'un quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances universitaires que moi aurait peut-être monté la pièce différemment. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de trouver toujours le côté mystérieux, c'est-à-dire de trouver en fait une cuisine interne, ce que j'appelle la cuisine interne d'un comédien. C'est-à-dire que le public n'est pas forcément, ne sait pas forcément mis, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'acteur. Et quand un acteur met en scène, j'aime beaucoup le côté surprise et surprenant de dire les choses. C'est-à-dire qu'on voit un acteur penser à quelque chose et c'est pas du tout le premier degré, le deuxième, troisième ou quatrième degré qui est le plus intéressant. Notamment, à un moment donné, Apelles parle de sa mère, mais c'est donc l'archétype d'Apelles. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de jugement vis-à-vis de sa mère qui est partie, en fait, la vraie mère, en fait, de Flore Bellard. Donc, du coup, en fait, j'ai voulu trouver quelque chose de plus subtil à faire avec les comédiens.
Voilà, donc une découverte peut-être pour un certain nombre de spectateurs qui vont voir ce spectacle. Les dates, c'est le 6, le 20 et le 21 mai, Théâtre de l'Orme, 16 rue de l'Orme, Paris 19e. David Garcia, merci. Et je pense que les répètes, ça y est, c'est fini.
Maintenant, non, on travaille encore cette semaine, comme il faut, pour être très opérationnel le dossier.
Alors,
pour évoluer le spectacle.
C'est samedi prochain, c'est ça?
Samedi.
Merci. Alors, tout à l'heure, on va avoir justement Bruno Bertoise, mais on va faire écouter à nos auditeurs un des thèmes justement de la pièce. Je vais parler Voir au Longe, une musique qui a été composée exprès par Bruno Bertoise. Et on va écouter. Merci, David Garcia. Et on se donne rendez-vous samedi au Théâtre de l'Orme, alors.
Merci beaucoup. Alors, venez avec plaisir.
Merci.
Au revoir.
Un des thèmes originaux pour la pièce Flore Bellard, la sœur du rêve. Bruno Bertoise, bonjour.
Bonjour Arthur. lecture.
Alors, cette rencontre, parce que bon, cette musique a été composée déjà pour les premières représentations de la pièce Flaubert, la sœur du rêve, ça s'est passé au théâtre. Cette fois-ci, ça va être au théâtre de l'Orme. Alors, cette découverte, bon, je ne vais pas demander quand est-ce que vous avez découvert Flaubert, là, parce que ce n'est pas un musicien et quelqu'un amoureux de la poésie que je pourrais poser cette question.
Oui, non, c'est vrai que la personnalité incroyable est extrêmement passionnée de Forbella Espanca m'a beaucoup touché, et il est vrai que la pièce d'Odette Branco tisse vraiment la personnalité complexe d'ailleurs de Forbella, donc avec son souffrance, de solitude, de désenchantement, mais aussi beaucoup de sensualité, donc j'ai voulu traduire ça dans la musique.
Et apparemment, bon, tout à l'heure, on a eu David Garcia, donc le metteur en scène. La musique, elle va rythmer aussi le spectacle, va rythmer aussi, même la mise en scène, elles sont obligées, dans mon sens du terme, tenir compte de votre musique.
Oui, j'ai voulu donner plusieurs propositions tout de même, c'est-à-dire plusieurs thèmes différents que les comédiens, qui sont d'ailleurs, chanteurs pour certains, pouvaient s'approprier. Et donc, les propositions sont à la fois des articulations, des ponctuations, mais aussi des thèmes différents qui représentent des états d'âme différents de l'auteur Forbella. Donc, oui, je crois que la musique, enfin pour moi en tout cas, elle a une part importante, et c'est très bien servi d'ailleurs par la mise en scène de David Garcia.
Et d'ailleurs, l'actrice et chanteuse Danielle, justement, elle a, je dis, adapté en quelque sorte un texte à votre musique.
Oui, c'est vrai que lorsque j'ai imaginé ces musiques et que je les ai enregistrées, j'ai voulu d'une certaine façon qu'elles soient très larges sur le plan harmonique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une forme trop strict et trop compliqué, et je voulais que voilà qu'elle puisse servir à divers modes. Il se trouve que je n'avais pas imaginé forcément y adapter un chant, mais ça s'y prête très bien, donc pour moi c'est très réussi comme expérience. Justement, cette musique, je dirais, a plusieurs facettes qui peut finalement s'adapter à diverses manières de voir les choses, donc ça marche bien comme ça.
C'est peut-être une découverte pour beaucoup de gens de Flaubert Espanca, parce que bon, c'est vrai que la poésie aujourd'hui, ça paye pas entre guillemets, ça vend pas entre guillemets, mais c'est important de redécouvrir pour le public français cette poétesse portugaise.
Ah oui, moi je pense qu'elle est très hors norme. D'abord sa vie et la façon de percevoir les choses, ça m'a beaucoup parlé. C'est vrai que il y a cette sensualité intégrante qui fait partie même de sa poésie, et je trouve qu'elle est parmi les auteurs, en tout cas il n'y a pas beaucoup d'auteurs femmes, et celle-ci est vraiment très très intéressante, et je pense qu'elle dépasse simplement le cadre du Portugal. Elle me fait même penser à Virginia Woolf par exemple comme type de sensibilité, donc je pense que vraiment que c'est quelqu'un qui est très intéressant à découvrir.
Donc, Flaubert, la sœur du rêve, une pièce théâtre en trois temps de Odette Branco, qui va être représentée le 6, le 20 et le 21 mai au théâtre de l'Orme. Mais, Bruno Patoise, on a une autre actualité. Ça y est, le quatrième volume est là. Je vais parler des compositeurs portugais, répertoire pour les pianistes. Le quatrième volume va être présenté le vendredi 19 mai à la Fondation Carlos Gulbenkian à Paris, avec un concert. Ça y est, finalement, ce projet, il fonctionne. Vous avez réussi, vous n'êtes pas tout seul avec Jean-Pedro Sanches, mais également, il ne faut pas oublier, Ava Musical Edition. Donc, ce projet, au début, vous y croyez, bien entendu, mais enfin, les choses, elles avancent dans le bon sens.
C'est un peu une conséquence de 20 années de travail avec la musique portugaise, et j'ai pensé que c'était très important maintenant de la rendre accessible pour les professeurs en France et pour les jeunes pianistes. Donc c'est vrai que ce quatrième volume atteint déjà des niveaux et des complexités d'écriture qui sont dignes de morceaux de concert, mais là on a un engagement bien plus important encore des conservatoires français, puisque même le conservatoire de Dunkerque va venir le nord de la France participer à ce concert, donc il sera le 19 mai à 18h, et également des élèves du conservatoire de Lisbonne. C'est un échange. Nous sommes allés à Porto jouer et partager un programme avec le Curso Silva Monteiro le 8 avril dernier, et voilà, c'est l'initiation cette année d'échange entre nos pianistes portugais et français. J'en suis très très heureux.
Voilà, justement, voilà, quand on parle du concert à 18h le 16 mai à la Gulbenkian, Argenteuil, Perreux-sur-le-Marne, Dunkerque, Coudray, Monceau, Épône et Lisbonne. Alors, ce quatrième volume, en trois langues, c'est vrai, portugais, français, anglais?
Oui, il faut absolument que les choses soient accessibles dans plusieurs pays, parce que les compositeurs portugais ne sont pas connu en dehors du Portugal, donc j'ai tenu à ce qu'il y ait une biographie spécifique. Il y a 30 compositeurs différents dans cet album, et que chaque compositeur ait une biographie succincte, mais précise quand même, dans les trois langues, portugais, anglais et français. Nous avons eu des critiques à Londres, dans des revues spécialisées sur ces nouveaux volumes, et il est évident que les professeurs français sont très contents de comprendre un peu mieux comment s'articule le paysage musical au Portugal, qui restait quand même très méconnu pour nous. Alors voilà, en trois langues, les titres des pièces, bien sûr, qui sont parfois très évocateurs. Et bien sûr, la musique est très belle et très intéressante pour les pianistes.
Alors, quatrième volume, moyen B, concrètement.
Oui, on est déjà dans un niveau qui s'approche du niveau du troisième cycle, qu'on appelle le troisième cycle en France. C'est-à-dire, c'est un cahier qui s'adresse vers la huitième année de piano, huitième, neuvième année de piano. Déjà un niveau très intéressant musical et technique, donc voilà. Mais le programme proposera vraiment, le programme de concert du 19, proposera un panorama qui partira du 18e siècle avec des œuvres de Francisco Javier Batista ou Carlos Seixas jusqu'à des pièces contemporaines dont fait partie une pièce de Pedro Santos, compositeur né en 1976. Et cette pièce, Inquiétude, sera créée. Elle sera jouée pour la première fois en public à l'occasion de ce concert.
Alors justement, mais je pense que vous vouliez justement, c'est de dire bon, on avait des compositeurs portugais, mais il y a des nouveaux aujourd'hui. Donc c'est de lier l'histoire, finalement, c'est un peu l'histoire de la musique portugaise que vous faites, en quelque sorte.
Moi, je crois que les compositeurs d'aujourd'hui sont très très intéressants, très bons. Il y avait une période difficile où peu de compositeurs étaient formés au Portugal encore dans les années 70. Et puis avec la création de l'École supérieure de musique de Lisbonne et de Porto, des classes de composition de très grande qualité ont permis à des nouveaux compositeurs d'aborder l'écriture de façon bien plus structurée, puis beaucoup plus pédagogique. Donc je crois que maintenant on est dans une génération de compositeurs qui des œuvres symphoniques, des œuvres concertantes et qui sont jouées à l'étranger. Et ça met vraiment le Portugal absolument à niveau avec tous les autres pays d'Europe.
Alors il y a une constante quand même dans le volume jusqu'à maintenant. Bon, ça apparaît pas dans le quatrième volume. Fernando López Graça.
López Graça a toujours une place, ou presque toujours une place. Et dans ce programme, il y aura effectivement quatre pièces de lui qui seront jouées. Parfois, ce sont des pièces assez courtes. Parce qu'il a écrit aussi beaucoup de pièces brèves ou des bagatelles assez succinctes, mais il est vrai que sa personnalité est toujours importante à représenter dans un programme, parce qu'il est la charnière un peu, hein. C'est vraiment la grande personnalité du XXe siècle au Portugal, autant politique que musical et simplement artistique. Donc oui, je tiens beaucoup à ce que López Graça soit présent dans les volumes.
D'ailleurs, je voudrais aussi rappeler un disque, vous avez fait un disque justement sur les adaptations, entre guillemets, de Fernando López Graça, de la musique traditionnelle portugaise. Ça vaut peut-être la peine de rappeler tout votre travail, parce que vous avez déjà une douzaine de disques édités, soit en solo, soit en trio. Ça vaut la peine de le rappeler, Bruno Voltaz.
Oui, mais merci Arthur. Oui, c'est vrai que j'ai toujours plein de projets en cours, mais que ces disques sont pour moi un peu des jalons dans ma vie d'artiste. Alors, la musique française et même la musique du grand répertoire est toujours présente dans mes programmes, mais le Portugal a une place très importante parce que, effectivement, je suis très lié, parce que je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire, autant musicologique que sur le plan de l'interprétation. Et c'est très aimable à vous de rappeler, effectivement, ce disque qui s'appelle Melodias Rústicas Portuguesas, qui sont des pièces pour piano, que Fernando López Graça a composé d'après les chants traditionnels des campagnes du Portugal. C'est un parcours que j'ai fait avec la pianiste Cristina Margotto, à Porto, et nous avons partagé à 50% chacun le programme de ce disque. Très très content.
Voilà, Bruno Beltrán, donc je rappelle, quatrième volume de Partituras, une nouvelle collection, compositeur portugais, répertoire pour pianiste, qui va être présenté le 19 mai, ça sera un vendredi, 18h à Gulbenkian, une sélection des partitures justement de Bruno Beltrán et João Pedro Santos, grâce aussi à Ava Musical Edition. Qu'est-ce que je veux dire? Et par rapport aux autres volumes, 1, 2 et 3, où est-ce qu'on peut se les procurer?
Alors les volumes, on peut, pour les apprentis, pour les pianistes élèves, on peut aller tout simplement à la Flûte de Pan, par exemple, rue de Rome, qui est un magasin très très connu dans Paris. On peut les commander. On peut également aller sur le site de l'éditeur, qui s'appelle www.edition-ava.com. C'est très facile de passer la commande et c'est très rapide pour recevoir les albums. Consulter le site également, AVA, AVA Musical Edition, et je pense que c'est pas très compliqué pour obtenir les volumes.
Bruno Beltrán, merci. Donc le 19, mais j'ai l'impression qu'on va se croiser aussi le 6 probablement, au Théâtre de l'Orme.
Ah ben bien sûr, Flore Bella, c'est je suis encore en train de travailler justement sur certains aspects de la musique avec David Garcia, donc oui, c'est ce qui occupe mes pensées en ce moment, bien sûr.
Bruno Beltrán, merci et bon week-end.
Merci beaucoup, Arthur. Bon week-end également.
À très bientôt. Et on se donne rendez-vous le samedi. Estamos praticamente a acabar esta emissão. Obrigado ao Manuel Xando, obrigado igualmente. A Isabel, graças a eles também, esta emissão pode ser realizada. Lembro, a festa da Rádio Alfa, 18 de junho, Ilha de Loisir, em Creta, Tony Carreira, Bonga, Diogo Pissarra, Susana Félix, Cátia Aveiro, Cris Ribeiro, e já podem encomendar, ou já podem reservar os seus bilhetes através do site da Rádio Alfa, vai ficar mais barato. Fica por 15€, senão depois se deixa passar o dia 5 de junho, terá que pagar 19€. Depois não diga que quem o avisa não é seu amigo. E algo de importante, e isto tem a ver já com a língua portuguesa, o dia da língua portuguesa vai ser celebrado na quarta-feira, dia 3 de maio, às 8h30, no Consulado Geral de Portugal em Paris. Para aqueles que se interessam por estas questões europeias, a terceira conferência europeia, que vai ter lugar no dia 4 de maio às 20h30, isto é organizado precisamente na cidade universitária de Paris, na Maison de Portugal, André de Gouveia. A convidada vai ser a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. Podíamos continuar assim os anúncios, mas agora vamos terminar com música. O Bunga, ou vai ser o Sérgio Godinho? Um ponto de interrogação, não vamos até a África. África é uma maneira de falar, porque o Bunga também tem uma residência secundária, e não digam isto aos impostos, porque não sei o que é que vai ser. Felizmente que o Bunga vem nos ver aqui muitas vezes aqui em Paris. Bem-ajam, e dou-vos encontro na próxima semana, no domingo, dia 7 de maio, segunda volta das eleições presidenciais em França, há que não esquecer.
A vozinha está sozinha, a fera morta próxima. Sacrifícios aumentados redobram nosso passe.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para o poder, primeiro é o pão para se comer.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Filhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Os velhos morreram cedo, seus filhos irão também. Filhos pequenos estão comendo da
situação que se mantém.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo, olhos doentes empobrecidos e olhos molhados emancipados.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Passagem de nível. Encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB, 01 43 89 53 35.